Ben, tant qu'à y être, ça, il y a une augmentation sur ces coûts-là, OK. Bon, mais c'est une contingence, c'est ça. Puis c'est une contingence de 700 millions de dollars, puis on trouvait ça très élevé. Ben, sachez que là, maintenant, ça fait longtemps que c'est dépensé. On est rendu dans le plus de 4 milliards de dollars. Ça avait été confirmé par François Legault. Ce qu'on m'avait dit, moi, au mois de novembre passé, c'est que le chiffre était de 4,8 milliards de dollars, et ça leur faisait peur. Et on me dit... Bon, écoute, du moins, des gens qui sont proches du dossier, on me dit que c'est peut-être plus élevé que ça encore. Moi, je reste encore avec mon 4,8 parce que je constate qu'ils essaient de sauver de l'argent en fabriquant du matériel au Mexique. Puis ce qui est encore plus débile, Sébastien, c'est que le tramway de Toronto est bâti à la Pocatière.
Comme je disais ça la semaine passée, là, puis on vit dans une période où ce que les faits n'ont plus de l'air à compter. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer des choses. Regarde, il y a plein de monde qui disent aux maires marchands, pourquoi tu vas en Europe pour voir les tramways? Va à Toronto, va en Ontario, va voir ce qui se fait au Canada.
Ouais.
En plus, le climat est bien pas mal plus identique ici que si tu vas en Europe, tu sais, où ce que là-bas, l'hiver, ils n'ont jamais de tempête comme nous autres. Mais même si tu amènes des faits, ça compte pas. Il va pareil en Europe, il va pareil regarder. Puis je veux dire, combien de fois la bombe est allée en Europe? Je veux dire, ça fait 25 fois qu'on y va en Europe. Là. Et ces gens-là se payent des voyages sur notre dos pour essayer de nous faire comprendre que c'est nous autres qui ne comprend pas. Puis quand on se revire pour regarder l'Ontario, on fait « Ouais, mais les autres, ça ne fonctionne pas super bien. Comment qu'on va faire pour que ça fonctionne bien, nous autres, avec des hivers pires? » Puis avec des, on le sait, au Québec, il n'y a jamais rien qui coûte le prix qui est censé coûter. Alors, les faits ne comptent pas. C'est comme ça, puis... Moi, je veux dire que le maire prend des mauvaises décisions, ça, c'est une chose. Mais je vais être sévère envers l'opposition. L'opposition, là, c'est pas... On appelle l'opposition, puis c'est un peu... on devrait changer de terme. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment de l'opposition là, qui devrait faire. Ils sont pas toujours obligés de s'opposer à tout. Mais là, dans ce cas-ci, là, je veux dire, à chaque nouvelle depuis les 4-5 dernières années qu'on apprend sur le tramway, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Soit que ça coûte plus cher, soit que le tracé va être changé, soit qu'on va faire fi des citoyens qui disent « on veut pas que ça passe dans notre cour en arrière, on va être expropriés ». À chaque fois, c'est des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on apprend une autre mauvaise nouvelle. Puis la semaine prochaine, ça va être une autre mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce que l'opposition fait? Si j'étais à l'opposition, je me leverais debout, puis je dirais « là, nous autres, on n'assiste plus à rien, on ne fait plus rien, tant qu'il n'y a pas un référendum sur la question, puis que les citoyens s'expriment ». S'il y a un référendum, les citoyens disent « oui, on en veut un », à ce moment-là, on continuera à aller de l'avant. Mais la ville peut faire un référendum. J'en ai parlé, écoute, on s'en est parlé souvent ensemble, nous, de la loi 122 là, de 2017. Pour rappeler aux gens qui nous écoutent, là, le 15 juin 2017, Martin Coiteux, sous les libéraux, a passé la loi 122. Et c'est ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les gens ne peuvent plus exiger un référendum pour quoi que ce soit dans les municipalités à travers du Québec. C'est la ville qui décide s'il y a un référendum. Mais si l'opposition était solide à Québec, il dirait on sort en bloc, on s'assied dehors, puis quand il y aura un référendum, après ça, on rentrera dedans, qu'on se fait travailler.
Ouais, je parlais avec Claude Villeneuve ce midi, puis j'ai encore essayé de faire cracher à l'opposition. C'est quoi le chiffre qui va faire en sorte que vous allez
en
dire...
En plus, on ne sait même pas le chiffre.
Non, on n'ira pas là. Il ne semble pas vouloir me le dire. J'imagine que dans sa tête, il y a un chiffre. Là. Moi, j'ai un chiffre là, dans ma tête. Là. C'est-à-dire, on pensait que c'était autour de 3 milliards, 3,2. Là, finalement, la gang à Duhem, les conservateurs avec Stéphane Lachance disent « Ah, c'est autour de 6 milliards, 8 milliards. » moi, j'irais pas. Là. Moi, j'en ai un chiffre, je fais pas partie de l'opposition, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça va faire. Là. Ces gens-là, c'est moins de 10 % de la population. C'est pas vrai qu'on va tous se déculoter pour 10 % de la population.
Ben, je suis bien d'accord avec toi, mais le tramway, là, même s'il était pas cher, même s'il était 1 milliard, les gens ont quand même le droit de s'exprimer.
Ben oui.
Ça,
oui.
Ça faisait depuis 1930 qu'on avait des référendums au Québec, qu'on avait le droit d'avoir des référendums. D'un coup de crayon, les libéraux ont enlevé ça. Puis à partir de maintenant, la ville de Gatineau, s'ils veulent faire un colisée à 1 milliard, ils peuvent le faire, puis le monde n'aura pas un mot à dire. C'est à la grandeur du Québec, ça, cette affaire-là, la loi 122. Il était où, là, l'opposition en 2017 au provincial quand c'était le temps de se battre? Il n'était pas là. Puis là, l'opposition aujourd'hui, M. Villeneuve, j'ai bien du respect pour lui, mais sa job, là, c'est de protéger les citoyens.
C'est l'ancien parti de Régis Labeaume, là. Ne l'oublions
ça,
pas.
Je m'en sac. Il est dans l'opposition. Puis aujourd'hui, de dire, ben là, j'ai pas de chiffre à dire. Comment ça, j'ai pas de chiffre à dire? Hey. Tu te construis une maison demain matin, tu t'en vas à la caisse, tu demandes une hypothèque, puis ils disent combien ça coûte, je sais pas. Tu vas-tu l'avoir?
Je lisais quelque chose hier, j'ai trouvé cette réflexion-là intéressante. Nous sommes entrés dans l'ère de la gouvernance par supériorité morale. Au lieu d'écouter et représenter la population dans les décisions politiques, le politique décide maintenant que la population n'a pas la capacité de la grande moralité nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Donc, pour ces grands intellectuels, nous, la pauvre population, sommes trop limités pour comprendre ce qui est bon pour nous. Cette phrase-là n'est pas nouvelle dans notre histoire.
Ben non, mais écoute, ça, là, c'est vrai, mais tu peux reculer jusqu'à la Révolution française, tu peux reculer jusqu'à l'époque des Romains. Ça a toujours été comme ça. Les élites ont toujours eu la science infuse, puis disons, on va vous montrer comment est-ce que c'est bon pour vous autres, pauvres peuples, la plèbe. Mais au-delà de ça, là, moi puis toi, on peut s'époumoner sur la place publique à dire ça n'a pas de sens, puis à dénoncer, puis plein de monde peuvent faire la même affaire. On peut avoir des faits, on peut avoir des articles, de la science de notre bord. Mais au final, là, les gens qui peuvent faire quelque chose aujourd'hui, là, présentement, là, c'est l'opposition à la Ville de Québec.
Mm-hmm.
C'est eux autres qui ont du pouvoir réel. Moi puis toi, on peut dénoncer. On peut être 50 000 dans les rues à faire une manifestation. Les marchands peuvent dire « moi, je continue ». Mais ceux qui ont un pouvoir légal, réel, c'est l'opposition à la Ville de Québec. Ils peuvent se lever en bloc, dire « nous autres, on participe peu à rien, on ne fait plus rien tant qu'il n'y a pas un référendum de fait ». Ils peuvent paralyser la ville d'une façon législative. Là, je ne te dis pas les rues, là. Mais législativement, ils peuvent paralyser la ville, dire « c'est un référendum, mais après ça, on continuera à se parler ». Parce que là, tu as Claude Villeneuve aujourd'hui qui dit « moi, je n'ai pas le chef à donner ». Ben oui, mais à quoi tu sers d'abord?
Il m'a dit aussi que pour ce qui est du troisième lien, il attendait de savoir c'était quoi le plan B
advenant le cas d'une
fermeture du pont Pierre-Laporte. Oui, mais je te fais juste te rapporter les propos. Ouais. Je veux pas me bagarrer avec toi.
Non, mais c'est le fun quand on a.
C'est ce qu'il m'a dit. Et là, j'y ai dit, M. Villeneuve, c'est parce que je vous le dis régulièrement à chacun de vos passages, c'est quoi le plan B du ministère des Transports advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte.
Ça fait des années que
et
je
là, il me regarde dans les yeux et il me dit, ben oui, je le sais, c'est le pont La Violette.
Ah,
mais ils ont peut-être d'autres choses.
Ouais, quoi?
C'est quoi?
Des trampolines?
Des bateaux? À rame? C'est quoi les autres choix? T'sais, j'ai l'impression des fois que l'opposition, oui, mais ils sont d'accord avec ce que le maire met en place. Là.
Tu veux mon opinion sur M. Villeneuve, là, puis je suis poli en disant ça, il joue sur deux tableaux. Il travaille pour sa prochaine campagne électorale.
Ça, c'est clair. On il me l'a confirmé. Bon, il ne l'a pas confirmé ailleurs, mais il l'a confirmé sur les ondes
fait
de boulevard.
Là, mi-figue, mi-raisin, je dis oui, mais je dis non. Ça, je suis d'accord, mais je ne veux pas aller à tel prix, ça, telle affaire. C'est que c'est toujours oui puis non. À ce moment-là, reste chez vous pendant les deux prochaines années qui restent au mandat, là, puis on revient dans deux ans, parce que d'ici à ce temps-là, tu ne seras rien.
En parlant du maire Marchand, j'ai tendance à l'appeler le maire Plante, là. Mais mettons le maire Marchand.
Ouais.
Mettons Bruno Plante.
Bruno Plante.
L'absence d'expérience en politique amène souvent de nouveaux venus à penser que 100% des électeurs ont voté pour lui ou elle. Or, ce n'est qu'une poignée de gens qui ont voté pour lui ou elle et en fonction de ses promesses ou celles du parti qu'il ou elle représente. Ajoutons que souvent, les gens votent contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un. Le maire Marchand Plante, à Québec, n'a pas eu l'appui de personne. Il condamnait les élus partis en voyage alors qu'il est peu souvent à Québec ces derniers temps. En tant que haut dirigeant de Centraide, j'avais vu dans son début de mandat une personne rassembleuse, capable d'unir mieux que ses prédécesseurs, les leaders autour d'un même projet. Quel qu'il soit, tout cela m'apparaît aujourd'hui de la poudre aux yeux, un véritable complexe de politicien nouveau qui croit que tout le monde est derrière lui. Pour moi, c'est une déception fois mille. C'est un commentaire de Martin, puis j'ai l'impression que Martin ne se sent pas seul là, dans ce type de commentaire.
Martin est un citoyen
de la Ville de Québec.
OK. Ben, il a raison, Martin. Mais malheureusement, pour Martin, c'était prévisible, cette affaire-là. Moi, je n'ai pas voté pour le maire Marchand. Là. Je veux dire, je l'affirme. Là. Monsieur Marchand, dans ses propositions, de toute façon, ce n'était pas des choses qui me rejoignaient du tout. Mais connaissant son background aussi, je voyais un peu où ce que ça s'en allait. Là.
Ah ouais?
Oui, regarde. Issu du communautarisme, rien pour l'économie, toujours à gauche sur à peu près tous les enjeux de la ville. Alors, ça donne ce que ça donne. Et puis, j'ai vu ce film-là combien de fois? Tu sais, ça fait 30 ans que je regarde la politique. J'ai pas la science infuse, mais si tu as moindrement de mémoire, puis tu regardes les 30 dernières années, puis tu vois ce genre de bonhomme-là, tu l'as vu mille fois. Là, il est différent. Il y a des souliers différents, etc. Mais c'est le même. Alors, les gens disent, ouais, mais là, on savait pas, on s'est fait enfiopoper. Mais oui, mais là, quand vous avez 18 ans, vous commencez à voter, je peux comprendre que là, c'est la première fois, puis vous apprenez des choses. Mais quand vous avez 30, 40, 50, 60, vous avez vu venir, là. Les politiciens qui promettent des affaires puis qui ne livrent pas, c'est pas la première fois qu'on voit ça.
Mais on s'est fait avoir. Le gars partait avec 1% dans les intentions de vote puis il a réussi quand même
à gagner l'Amérique. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Yannick. On va avoir un débat là-dessus. Il dit on va enlever la dalle de ciment puis on va enlever les fils électriques.
C'était des promesses, des fausses promesses.
Oui, c'était des fausses promesses, mais bon, c'est sûr que moi, je suis un ancien électricien, là, mais je me disais, il ne réussira pas à faire ça. C'est, ça se fait pas ailleurs. Oui, ça se fait dans certains endroits qui sont capables de passer les fils dans le sol quand il n'y a pas de neige. Mais on a de la neige, ici.
Donc les fils sont.
Ben oui, avant même qu'il finisse sa phrase qui dit qu'on va enlever les fils, je savais que ça se ferait pas.
Ouais.
La dalle de ciment, je comprends pas pourquoi on l'a fait en premier, mais étant donné qu'ils ont décidé de la faire, je savais aussi que ça aussi, c'est pas parce que je suis intelligent puis je sais plus que. C'est pas la question.
Non, mais il y avait une complicité de certains médias, tu sais, ce genre de questionnement-là que toi, tu avais à ce moment-là. Un journaliste aurait pu avoir le même réflexe, c'est-à-dire d'aller voir un électricien en disant explique-moi comment ça fonctionne un tramway, puis
ben, c'est
possible.
Ben, comme je dis souvent, allons voir ailleurs.
Moi,
qu'est-ce qui se fait ailleurs?
Moi, tu me fais faire des cauchemars. Quand on parle de l'objectif 2035 là, pour ce qui est des automobiles électriques,
ben,
là, quand tu m'en parles parce que tu es un électricien,
ouais.
Depuis ce temps-là, je ne dors plus. C'est à cause de toi, là, toutes les problématiques de sommeil.
Ben, tu sais, j'explique. Si on fait une parenthèse là-dessus, c'est que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que présentement, la technologie qu'on a, brancher un automobile électrique sur du 120 volts versus du 240 volts, c'est 10 fois plus long sur du 120. La quantité de blocs appartements et de condos qui ont juste du 120, ça veut dire que lorsque vous allez arriver chez vous le soir, après travailler, il faut que la voiture soit branchée toute la nuit pour qu'elle soit correcte pour partir le lendemain matin.
Mm-hmm.
Puis l'hiver, en plus, bien, il y a 50% moins de batterie. Puis on peut espérer que la technologie change, mais à date, c'est ça. Puis ça, les gens savent tout ça qu'entre le 120 et le 240, c'est 10 fois. C'est pas le double. Les gens disent 120, 240, ça doit être 2 fois plus long.
C'est
non.
Proche.
C'est 10 fois plus long. Allez sur le site de Tesla, c'est écrit noir sur blanc.
Oui, c'est proche. Mais quand, c'est ça. Cet été ou l'autre été d'avant, parce que j'étais collaborateur avec moi depuis un bon bout, là. Puis avant, on se parlait par téléphone à radio. Quand j'avais été à l'Île des Sœurs, puis je me souvenais de ce que tu m'avais dit, je me suis dit, et ici, là, ça va imploser. C'est des condos, là, des édifices à condos sur l'île des Sœurs. Là. C'était dans plus fin air, puis t'as des stationnements de voitures à étage. Je veux dire, ces gens-là vont halluciner tantôt.
Non, puis pour mettre des breakers 240, tu peux pas changer de breaker. Il faut que tu changes le fil dans le sol.
Ouais.
On n'a pas la quantité de cuivre au Canada au complet pour changer tous ces fils-là. Il faudrait que la technologie change de façon drastique pour que les voitures à brancher sur du 120 soient rechargées très rapidement. Ça n'arrivera pas. Regarde, on se parle aujourd'hui. Là, c'est quoi la date? Là, on est le 25.
Mm-hmm.
On vient d'apprendre là, qu'il y a 500 000
abonnés
d'Hydro-Québec qui n'ont pas de courant. Le soir du midi, il n'y a pas de neige. Il tombe 3 bérins de pluie. Puis là, il y a 500 000 personnes, c'est quand même du monde.
Oui, les porte-paroles sont incapables de dire ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai mon contact qui était à Hydro-Québec qui parlait...
Ça date des groupes générateurs qui ont arrêté de fonctionner pour X, Y, Z.
Qui me parlait d'une demande supérieure. Lui, dans son cas, lui, il me parlait d'une possibilité de demande supérieure. Puis il y a un autre porte-parole qui mentionnait tout à l'heure sur les ondes d'LCN qu'il y a des possibilités que ce soit même une tempête solaire qui ait fait sauter Breaker.
On en a parlé combien de fois ensemble? Il y a le rapport de la vérificatrice qui est sorti il y a une couple de semaines pour dire que Hydro-Québec, depuis des années, ne met pas assez d'argent pour entretenir son réseau de façon préventive et même réparer ce qui fonctionne mal. On l'a vu dans la petite tempête de verglas qu'on a eu à Montréal il n'y a pas longtemps. Les gens ont été plus qu'une semaine sans courant. Une grande partie des gens. Le réseau est fragile. Le ministre l'a avoué.
Mm-hmm.
On le sait. Puis en plus, là, on nous demande d'électrifier tout. Alors, la personne aujourd'hui à Montréal là, qui n'a pas de courant puis sa voiture n'est pas branchée, il fait quoi pour aller à l'hôpital s'il a besoin de... Pour aller porter ses enfants à la garderie, pour aller travailler, il fait quoi?
Il prend le transport en commun. Électrifié.
Il va prendre son vélo.
revenons au troisième lien, là, parce que qu'on a fait le tour du tramway. Là. Pour ce qui est du troisième lien, quelle drôle d'idée de dire, bon, on a des études et les études à l'heure actuelle ne nous convainquent pas des besoins d'avoir un troisième lien autoroutier. Mm-hmm. C'est-tu un manque de vision flagrant, ça?
Ah, ben c'est de la stupidité même. Moi, je veux dire, j'ai été poli quand j'ai dit que c'était un manque de vision, là, mais... je vais le dire à la radio, c'est de la stupidité que de ne pas savoir que d'avoir des routes en bon état, que d'avoir plus de liens autoroutiers améliore l'économie. Et si tu ne sais pas ça, tu n'as pas d'affaire dans une position de prendre des décisions.
Okay. Au-delà de ça, explique-moi que quand il y a eu la période de questions avec Geneviève Guilbeault, là, explique-moi pourquoi on ne lui a pas dit, Mme Guilbeault, avec tout le respect qu'on vous doit, là, est-ce que vous avez les chiffres sur l'achalandage pour ce qui est des automobiles ou des camions dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment ça prend de temps bâtir un troisième lien? Puis le jour où le troisième lien va être bâti, là, on va en être où sur le circuit autoroutier? T'sais, est-ce qu'il va y avoir une augmentation ou il va y avoir une diminution? T'sais, dans ses propres études qu'elle a rendues publiques, Geneviève Guilbeault, là, il y a une phrase qui mentionne toute l'étude au grand complet, c'est-à-dire que les chiffres qu'ils ont là actuellement pour l'année 2022 ne sont pas suffisants pour dire que le trafic ne reviendra pas à ce qu'il était en 2019. Ce qu'elle mentionne dans cette étude-là, c'est qu'il faut attendre 2023 au grand complet pour avoir un éclairage sur le dossier. Et elle a dit tout à fait le contraire pendant la conférence de presse. Qu'est-ce qui fait que les journalistes ne la confrontent pas?
C'est un mystère, honnêtement.
Et de la voir après ça se sauver, parce que les arguments qu'elle a amenés pour ce qui est du troisième lien à Québec, de la voir se sauver dans le dossier du tramway en disant « Oh non, 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 ça c'est un projet municipal. Ouais. Si vous le voulez bien, vous poserez les questions à Bruno Marchand. » Mais advenant le cas où, bon, on fait fi de l'automobile, là, ce qu'elle a mentionné, c'est qu'il y avait beaucoup de moins de monde dans le transport en commun. Donc, à quoi ça sert finalement?
30% souvent qu'on mentionne.
Ouais, à quoi ça sert finalement le troisième lien uniquement du transport en commun s'il y a 30% moins de gens?
Encore une fois, les faits ne comptent pas. Mais pour résumer toute la patente là, de ce qui a été annoncé par Mme Guilbeault la semaine passée, là, la raison pourquoi le troisième lien est rendu dans sa mouture actuelle, là, c'est qu'il y a une seule raison, l'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent, ils savent que ça va coûter une fortune. Et la seule façon de refiler une bonne partie de la facture, c'est de l'envoyer à Ottawa. Puis à Ottawa, ils ont dit, si ce n'est pas de transport en commun, on ne paye pas. That's it. Deuxième affaire des choses, ils savent qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences parce qu'on est dans les 6 premiers mois de suite à une élection. C'est connu que les gouvernements prennent toujours les décisions qui déplaisent aux gens dans la première année. Tout ce que tu as à faire de dur et de difficile, tu le fais dans la première année pour que les gens aient le temps de décanter puis que tu aies 2-3 ans avant la prochaine élection. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été de même. Alors, un, le gouvernement n'a pas l'argent, ferait le projet qu'il voulait peut-être faire avec des autos. Puis deuxièmement, ben en plus, tu ramasses l'argent du fédéral parce qu'ils vont payer avec. Puis deuxièmement, il n'y a pas de conséquences. C'est quoi la conséquence réelle pour le gouvernement? Ils peuvent tous s'asseoir sur l'humain pendant 3 ans, puis tu ne peux pas mettre les députés dehors.
Ah, puis ils vont être réélus, là.
Ben, ils vont être réélus, certains. C'est quoi l'opposition? On l'a dit il n'y a pas si longtemps, c'est le PCQ. C'est le Parti québécois?
Actuellement, s'il y a une réelle opposition à Québec là, qui va à contresens de la coalition Avenir Québec, c'est le PCQ, mais le PCQ, pas l'Assemblée nationale.
Non. Fait que il n'y a pas d'alternative. Tu peux pas sortir un député dehors. Ils peuvent ne pas. Moi, ça me faisait capoter parce que quand j'étais attaché politique il y a très longtemps dans une autre vie, je m'étais rendu compte, c'est quand tu travailles en arrière de la. J'appelle ça travailler en arrière du rideau là, parce que tu vois comment la. Je faisais une allusion avec le machin d'os. Tu vois comment est-ce les rouages fonctionnent en arrière. Ouais. Tu te rends compte, OK, ouais, c'est de même. Puis là, tu te rends compte que les députés, à moins d'être accusés au criminel ou d'une faute épouvantable, ils ne peuvent pas se faire sortir dehors. Monsieur Fitzgibbon, là, le ministre, là, il se fait 3, 4, 5 blâmes à l'éthique qu'il a, puis il est encore là, puis il n'y a pas de problème. Il se fait inviter partout, puis il continue à faire ses affaires. Éric Kerr, il ne démissionnera pas, il va continuer à faire ses affaires. Fait que si tu peux pas perdre ta job, puis en plus, il n'y a pas d'opposition, fais ce que tu veux.
Mettons que je suis empathique, là.
Ouais.
Pauvre Éric Kerr.
Ouais. Oh, et lui, ben.
Il sait très bien que son après-carrière politique va être une catastrophe, là. Puis là, avec ce qui s'est passé dans les derniers jours, il va commencer à se mettre de l'argent de côté parce que la différence salariale entre ce qu'on va lui offrir comme travail, puis ce qu'il y avait là, va être énorme.
Ben, je suis plus ou moins d'accord avec toi là-dessus. Parce que, premièrement, Éric Kerr, son fonds de pension, il est bien à côté.
Ah, je veux bien croire, mais c'est à partir de 65 ans, c'est vrai.
Non, je comprends, mais je veux dire, ça fait 15 ans qu'il est élu à l'Assemblée nationale. Ouais. Fait que s'il n'a pas déjà pilé un peu d'argent d'avance, là, c'est son problème.
Ben, d'après moi, un député qui emprunte de l'argent au maire d'une de ses villes, là, c'est pas si riche que ça.
Non, mais en tout cas...
Sans trop vouloir rentrer dans sa vie privée, là, je suis pas mal persuadé de ce que j'avance. Actuellement, il se pose des questions par rapport à son avenir. Il va commencer à piler son argent parce que c'est probablement son dernier mandat. Là. Puis parce qu'il va se faire dégommer au remaniement.
On prend une gageuse?
On prend un deux pièces ici. Là.
Un autre gageuse.
Au prochain remaniement ministériel, Éric Kerr, c'est terminé.
Non, mais M. Legault, là, il va peut-être l'enlever comme ministre, mais il va rester là comme député.
Il va retomber à 100 000 pièces par année.
C'est-tu quoi? Demain matin, là, il se ferait enlever le poste de ministre puis il retomberait député. C'est une bonne nouvelle pour M. Kerr. Parce que c'est pas pour le défendre, mais être ministre, là, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de l'ouvrage. Tu es responsable de tout, Puis tu es responsable de gens que tu n'as jamais même rencontrés. Savais-tu que les ministres nomment même pas leur sous-ministre?
Ben non, c'est le gouvernement.
C'est le premier ministre qui les nomme. Fait que toi, là, puis sous-ministre, là, c'est le bon Dieu dans le ministère. C'est pas le ministre. Alors, si là, tu dis au sous-ministre, là, peu importe le ministère, là, tu dis, hey, sous-ministre, là, pourrais-tu faire ci, ça, ça? Si le sous-ministre n'a pas le goût ou il veut y aller lentement, il peut y aller lentement. Il peut pas dire non, je le ferai pas, mais tu sais, il peut prendre son temps. Puis la personne en dessous du sous-ministre, elle peut prendre son temps. Puis l'autre en dessous. Fait que tu te ramasses finalement avec une inertie épouvantable. Mais au final, qui est responsable? C'est le ministre. Mais c'est pas lui qui s'en va le matin ouvrir l'ordinateur dans sa gire puis faire des opérations. Il est responsable de tout. Mais c'est. Alors, M. Kerr, demain matin, il se fait enlever le poste de ministre. Il y a moins de responsabilité, il y a moins de stress. Tu vas dire, il y a moins de salaire. Oui, mais ça vient avec le moins de stress, moins de responsabilité. Combien que de backbenchers? Il y a que vous êtes son 90 là, à l'Assemblée nationale, la CAQ. Il y a une gang là-dedans là, que je veux pas t'insulter, mais tu ne connais même pas les noms. Là.
J'y connais pour la plupart. Je vais t'avouer qu'il y en a que j'ai tendance à oublier, dont Sylvain Lévesque.
Il fait quoi, Sylvain Lévesque? Ce que je veux dire, là, c'est que ceux qu'on n'entend jamais parler font quoi? Je sais pas qu'ils travaillent pas. Mais ils sont assis, ils sont payés, puis ils ne sont pas stressés par les journalistes qui lui demandent à tous les jours si tu vas démissionner.
Ah non, hier, c'est-tu hier ou avant-hier, on se parlait, toi et moi, puis j'ai été voir Sylvain Lévesque, ce qu'il fait. Il est encore actif sur sa page Facebook. Ah, ben, il semble être dans son comté.
Il distribue ce qu'on appelle les chèques du SAB, le soutien à l'action bénévole.
Ouais.
OK, chaque comté, chaque député au Québec, ça, c'est pas rien que le gouvernement, c'est chaque comté. Là. Les 125 députés à l'Assemblée nationale, ils ont un budget de comté qui s'appelle le soutien à l'action bénévole. Ça, c'est tous les organismes bénévoles qui ont besoin de sous parce que les organismes bénévoles au Québec, ils ont toujours besoin d'argent. Puis là, ils font une demande aux députés, puis le député va lui donner un chèque de 200$, 500$. Ça joue dans un jeu. Des fois, 1000$. Fait qu'ils se promènent. Fait que là, ils vont faire des activités. Fait que là, t'as l'organisme XYZ qui fait un souper spaghetti, t'as le député qui est là. Ça, Sylvain Lévesque est là partout. Il fait ça. Je dis pas que c'est pas correct, mais il fait. Mais au niveau législatif, c'est quoi? Sur quelle loi qu'il vote à l'Assemblée nationale?
Il se prononce jamais sur les grands enjeux de la région de Québec. Il reste à l'écart de ça. C'est assez particulier. Là. Moi, c'est...
Ben, il y a une gang qui reste à l'écart.
J'ai été vérifier, voir si le moniteur cardiaque de Sylvain Lévesque fonctionnait toujours. Et j'ai été voir sur sa page
Facebook. Checker son pouls.
Mais bref, juste pour en revenir à Éric Kerr, moi, j'ai l'impression que s'il ne démissionne pas en raison de la pression, au prochain remaniement ministériel, il va être remis de côté parce qu'au niveau politique, ce gars-là, c'est le cancer généralisé. Là. Tu ne peux pas garder ce type d'individu. C'est juste pour les histoires de la SAAC là, qui prennent le singe et qui disent « Non, le singe, moi, je l'orpique
mais pour la SAAC, aux dirigeants de la SAAC. » Pour la SAAC, là, c'est l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas être solidaire avec les autres.
Exactement.
C'est ça que c'est
je propose de l'aider. Savez-vous quoi? Je prends acte de ce qui s'est passé à la SAAC. Mon équipe, on va être directement sur le dossier puis les Québécois vont bénéficier de l'éclairage de mon équipe.
Ça a dû brasser dans le Conseil des ministres, dire « Hey, là, comment... »
Mais il est comme ça, Éric. Moi, à l'interne, on me dit qu'il ne semble pas comprendre l'ampleur de ce qui se passe actuellement dans sa carrière. Puis encore tantôt, je le regardais, il est à l'Assemblée nationale, il a les yeux un peu vides, il dit que ses électeurs, ils comprennent que c'est une décision rationnelle. Mais je veux dire, quand tu prends tes électeurs pour des attardés, là, ça donne le même résultat. Ouais, là,
dans les faits, là, ça, c'est un argument que j'avais là, récemment avec quelqu'un d'autre, là, c'est qu'il n'y a pas besoin de démissionner.
Tu es en train de parler aux autres aussi. C'est moi ton homme.
Je parlais avec des amis. C'est que dans les faits, là, techniquement, là, Éric Kerr n'a pas fraudé personne. Il n'a pas commis d'erreur au niveau des règles de l'Assemblée nationale. Il n'est pas dans un conflit d'intérêts. Je ne sais pas te défendre, mais je t'explique. Rationnellement, il n'est pas dans une position qui lui demande de démissionner, à part que l'honneur et dire que tu avais fait une promesse.
La parole. Que vaut la parole d'Éric Kerr?
Oui, mais Yannick, des politiciens qui promettent des affaires et qui ne le font pas, là, c'est-tu nouveau, ça? Tu veux dire, ça fait longtemps. Écoute, Éric Kerr, ça fait 15 ans qu'il est élu, ça fait 15 ans qu'il fait des promesses brisées, puis les gens le réalisent. Le processus démocratique, c'est ça. Ça fait pas d'hier qu'il fait des promesses brisées. Moi, j'en ai une personnelle. Il a signé ma pétition pour le don d'organes en 2010, puis il n'a jamais rien fait.
On va y venir.
J'ai jamais demandé de démissionner. Je veux dire, demain matin, il démissionne. Là. Maintenant, il démissionne comme ministre seulement, puis il reste comme député. Qu'est-ce que ça change?
Bon, en fait, ça ne changera absolument rien pour le commun des mortels. Mais
il va avoir une s'il démissionne comme député en plus, là, en plus, il va falloir payer pour une autre élection.
J'aurais plus d'empathie pour l'individu à partir du moment où il dit, garde, moi, là, j'ai fait une promesse, je démissionne de la coalition Avenir Québec parce que je ne peux pas tenir ma promesse, puis je vais rester député indépendant. Pour les prochaines élections, ben, les électeurs décideront de ce qu'ils veulent faire avec moi.
On va faire de la futurologie. Admettons, il fait ça pour l'honneur. Il dit, moi, là, j'ai fait une promesse, je m'en vais, je démissionne comme ministre et comme député.
Parce que c'est un scénario qui existe.
Non, non, mais admettons, il fait, là, OK? Mettons, on est d'accord là-dessus. Il démissionne de tout, il s'en va chez eux, il s'en va faire de la gomme ballon comme prochaine job, OK? Là, il va y avoir une élection, il y a des gens qui sont réélus, merci, bonsoir. Souvent, on parle dans les médias, écoute, on en parlait pas plus tard que la semaine passée, les ministres, voyons, les députés veulent augmenter leur salaire. Toi, tu es d'avis que d'augmenter les salaires aurait des chances d'attirer des gens plus compétents en politique. Oui. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus, mais ça, c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, là, les gens là, qui auraient peut-être le goût d'aller en politique parce que le salaire est meilleur, parce que c'est ça, là, les députés vont voter une augmentation de salaire. Mais là, ils apprennent aujourd'hui que s'ils font une promesse qu'ils ne tiennent pas, la meute va se jeter dessus, les médias ils vont dire « démissionne ».
Exactement. J'ai aucun problème avec ça. Je me fais
élire.
Je me fais élire sur une grosse histoire comme ça, là. Mm-hmm. Puis mon premier ministre dit non, non, finalement, regarde, on s'est servi de cette raison-là pour tasser le Parti conservateur du Québec qui était en montée. On sait depuis des années que ça ne se réalisera pas tel que les gens de la région de Québec voulaient l'avoir.
On suppose.
Non, non, c'est ça. C'est carrément ça.
C'est pas mal certain.
Ça fait des années et des années qu'ils savent, là.
Non, mais on suppose, parce qu'on sait qu'un tunnel, ça se fait, il s'en fait ailleurs. Des ponts, il s'en fait ailleurs. Fait qu'on sait que c'est possible d'en faire. On suppose que les autres pensaient que c'était pas possible de le faire. Mais ça se fait ailleurs. C'est pas comme si on essayait de construire une patente qui n'existe pas, là.
Bref.
Ouais.
Personnellement, moi, c'est fini, là. Je veux dire, moi, attends un peu, là. J'ai été élu sur cette promesse-là. Mon PM me dit « Non, non, non. La seule raison pour laquelle on gardait cette promesse-là, c'est en raison du fait qu'il y avait le PCQ qui était en montée, puis on ne voulait pas avoir le PCQ à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. » Je décrisse, là. Je perds toute confiance en mon gouvernement. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de la politique pour gagner ma vie, là. Fait qu'à un moment donné, je suis capable de me regarder dans le miroir. « Ouais, OK, c'est beau. Si je démissionne, OK, c'est beau. Je vais être en ligne avec mes valeurs fondamentales. C'est fini, c'est terminé. » Écoute, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. À un moment donné, là, j'étais super bien. J'avais un job assuré, un salaire assuré. Puis mon boss a dit quelque chose qui a germé dans ma tête et je me suis dit, oh no, c'est fini, c'est terminé. J'ai dit à mon boss, c'est fini, c'est terminé. Il était grandement surpris. Il y a eu de la grosse peine. Puis j'ai dit bye-bye puis je suis parti. Mm-hmm. Puis je me suis regardé le lendemain en me réveillant, là. C'est-tu que j'étais beau bonhomme dans le miroir? Je me disais, je suis en ligne avec mes valeurs fondamentales.
Tes principes.
Mais si j'étais représentant du peuple, j'espère que ce serait la même chose. Voyons donc, tu te fais élire sur un mensonge. Tu fais partie de ça. Tu restes là-dedans.
Écoute, je vais si j'étais conseiller d'Éric Kerr, voici ce que je dirais aujourd'hui.
Honte à Drainville, honte à Biron, honte à Kerr, honte à tous les gens de la Coalition Avenir Québec qui sont dans la grande région de Québec, qui restent avec la Coalition Avenir Québec. Vous êtes une honte. Vous êtes la raison pour laquelle on est si cynique envers vous autres, parce que vous êtes capable de mentir pour conserver vos jobs. Je déteste ces gens-là, si, foncièrement.
J'ai un argument pour toi, là. Si j'étais Kerr ou Biron ou Drainville, voici ce que j'aurais dit. Dans le cas de Kerr, là, c'est ce que j'aurais dit. J'ai écouté, là, il y a une couple d'années, j'ai fait une promesse niaiseuse de démissionner. J'avais sincèrement l'impression qu'on allait réussir à construire en tant de temps, en tant de 4 ans, à faire la première pelletée de terre. On n'a pas réussi à le faire. Ceci étant dit, je vais rester au gouvernement puis travailler pour le ministre citoyen pour essayer de livrer le meilleur projet possible avec le meilleur coût possible.
Non, tu te fais trahir par ton boss, tu n'es pas capable de livrer la marchandise à tes citoyens qui t'ont élu.
Non, mais ce que je viens de dire, c'est correct, ça, c'est honnête.
C'est correct, c'est honnête, mais tu vas encore une fois sauver ta job. Mais tu n'es plus capable de te regarder dans le miroir. On n'est pas fait pareil, toi puis moi.
Non, mais c'est pas une question
de meilleur que l'autre. Mais ce que je te dis, c'est que ces gens-là sont des représentants du peuple. Mm-hmm. Ils se sont fait élire sur quelque chose qui était super important pour nous autres. Puis là, ils se font dire, parce que, tu sais, je le crois, là, tu sais, qu'eux autres n'étaient pas au courant de rien. Drainville, là, ils ne savaient pas que ça allait achoper, cette histoire du troisième lien-là. Il s'est inventé une histoire dans sa tête, puis ça a été très théâtral, puis il pleurait, alors que lui, il riait de Justin Trudeau, là, quand Justin Trudeau pleurait à télé. Là. Mais il s'est inventé une affaire en disant « ça va probablement passer, puis quand le gros en haut va décollisser, moi, je vais pouvoir prendre ma candidature à la chefferie de la coalition Avenir Québec. » Il essaie de s'en sortir, mais moi, je suis pas comme cet individu-là. Excuse-moi, là, Bernard Drainville, mais si tu étais un homme ou une femme qui se respecte ou un YEL qui se respecte, tu prends tes clics, tes claques, puis tu retournes en radio ou tu retournes comme en journalisme. Là. Tu restes pas là. Là.
Oui, ça là-dessus, on s'entend.
Tu te présenteras aux prochaines élections.
Je ne m'obstine pas sur le fait de l'intégrité de la personne ou du respect de soi-même ou de respect des promesses que tu as faites. Ce que je te dis, c'est que d'un point de vue rationnel purement, là, que Kerr ou Drainville ou Biron démissionnent demain matin, ça ne change rien pour le troisième lien. Ça, c'est une chose, OK? Ça ne l'améliore pas, ça accélère pas le processus. D'un point de vue d'intégrité, je suis d'accord avec toi. Ils s'en vont, ils disparaissent. On les remplace par d'autres, peut-être d'un autre parti. Mais au final, moi, je suis dans le résultat, je ne suis pas dans la méthode. Les citoyens, est-ce qu'ils ont un meilleur troisième lien s'ils démissionnent?
Il n'y en aura pas de troisième lien.
Non, mais admettons qu'on pense qu'il va en avoir un.
Non, mais il n'y en aura pas. Ça n'existera pas. Tu ne pourras pas faire un troisième lien uniquement transport en commun qui fonctionne entre 6h30 puis 8h le matin la semaine, puis entre 15h30 puis 18h30 le soir de semaine, puis qui ne fonctionne pas en fin de semaine, puis qui ne fonctionne pas le soir, qui fonctionne pas
à 8. On l'a dit en début de podcast.
Ça n'a pas de bon sens.
On l'a dit en début de podcast. La raison pour laquelle le troisième lien est rendu comme il est là présentement, c'est une question d'argent à point. C'est-à-dire que si le gouvernement était très honnête, là, il arriverait au micro demain matin et il dirait « Écoutez, là, on avait vraiment l'intention de faire un tunnel avec le transport en commun des voitures, mais on a eu les dernières études puis c'est 18 milliards à faire. » Je dis un chiffre de même. Là. À 18 milliards, voulez-vous qu'on le fasse? On va tenir notre promesse. Tu fais quoi, Yannick? Tu dis oui à 18 milliards juste pour tenir la promesse puis que les gens restent intègres?
Ben là, c'est un chiffre que tu m'annonces comme ça.
Ben, mettons 9 milliards.
Ça n'a jamais été... ce qu'on dit, c'est 10 milliards de dollars. C'est les projections que la coalition Amérique-Québec avait pour deux tubes.
Ouais.
Mais tu n'as pas besoin de deux tubes. Tu en fais un gros ou à deux étages, mm-hmm. puis dat-sol, c'est fini, c'est terminé. Tu fais passer du transport en commun là-dedans. Tu mets une piste cyclable, tu mets un passage piétonnier.
Ben d'accord.
Puis tu mets des automobiles qui peuvent passer, incluant des camions, sauf les marchandises qui peuvent exploser. Là. Mais pour le reste, on aurait pu le faire. T'sais, 10 milliards, je pense qu'on est capable de s'en sortir, mais comme on est au Québec, on part avec 10 milliards finalement. Un peu beauté, comme tu dis, plus, ça va augmenter.
En plus, la beauté de la discussion qu'on a là, c'est que ça fait 10 minutes qu'on parle de ça, puis on parle d'un tunnel que personne ne veut. Tout le monde vous l'impond.
C'est un très bon point. Hey, on va rappeler aux gens que tu as été candidat pour un poste de député dans le secteur de
Jean Talon.
Jean Talon. Qui était la personne qui a passé dans le secteur de Jean Talon?
C'est Joël Boutin, qui était là avant de la CAQ puis qui est encore là aujourd'hui.
Joël Boutin.
Joël Boutin. Oui, Madame Boutin.
La belle Madame Boutin. Oui. C'est comme ça que je l'appelle. Bon Dieu qu'elle est belle. Elle est intelligente, elle a tout pour elle. Mais elle
ben là, si vous regardez son CV, c'est quand même intéressant. Là. C'est une ex-pilote d'avion.
Tête,
puis, oui, c'est quelqu'un qui...
C'est une tête, mais tu sais, à choisir entre deux pancartes, j'aurais pris elle au lieu de toi. Là.
Ben, moi aussi, j'aurais choisi elle. Là.
Mais cela dit, bon, je rappelle aux auditeurs que t'es un gars qui s'est présenté pour le Parti conservateur du Québec. Et là, on avait eu idée ce soir de parler d'Éric Duhaime, ses stratégies actuellement. Moi, pour l'histoire des drag queens, je comprends pas trop où est-ce qu'il s'en va.
Erreur magistrale.
Ben, d'ailleurs, t'es d'accord avec moi. Là, c'est une deuxième pétition pour Éric Kerr.
Deuxième erreur magistrale.
Pour qu'Éric Kerr décide de quitter la politique. Là, ce qu'il fait... Tu sais, toi et moi, on est d'accord sur une chose, c'est qu'il fait du pointage présentement.
Oui. Là, il ramasse des noms pour quêter plus tard.
Des noms, des numéros de téléphone.
Des bénévoles.
Des courriels.
Et voilà.
Des bénévoles. C'est ce qu'il fait stratégiquement de cette façon-là. Ça a bien du bon sens, mais de l'autre, il ne réussira jamais à avoir la tête à Éric Kerr avec ce type de pétition-là.
Hey, ça serait terrible hein, si une pétition comme ça réussissait à avoir le... Si Éric Kerr démissionne de partout... Écoute, c'est une erreur de... Par où commencer? Tabarnouche. Premièrement, là, cette pétition-là, elle n'aura pas force de loi. Même les pétitions qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont parrainées par des députés, n'ont pas force de loi. Lui, là, la pétition qu'il fait, M. Duhaime, là, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Fait qu'elle a encore moins de force que celles qui sont présentées au Salon Bleu. OK? Ça, c'est une chose. Deuxième affaire des choses, si j'avais été le stratège au PCQ, j'aurais pas fait ça, j'aurais attendu. Tu peux fesser sur Éric Kerr... Puis là, t'attends, puis à un moment donné, il va peut-être démissionner.
Ouais.
Mais là, présentement, là, ils font une pétition. Si Éric Kerr démissionne là, ça va avoir donné l'impression qu'il démissionne à cause de la pétition du PCQ. Fait que la pétition du PCQ donne des forces à Ricard à ne pas démissionner, justement. Le gouvernement, là, la gang qui est dans le bureau du PM, là, du premier ministre, M. Legault, là, ils disent on n'a pas le choix de garder Kerr à cette heure.
Exactement.
Avant, on avait peut-être le goût de s'en débarrasser comme ministre, ouais. Mais là, on ne peut même plus, parce que ça donnerait raison au PCQ. Tu pensais, toi, juste la victoire du PCQ, dire on a réussi à avoir la tête d'un ministre ou d'un député? Il aurait dû attendre. Puis troisième affaire des choses, tu ne fais pas de pétition de même. Le processus démocratique est frustrant et long. Ça fait 15 ans qu'Éric Kerr est élu dans la pelleterie. Il a brisé plusieurs promesses depuis qu'il est là. C'est pas d'hier. Ça fait pas depuis 6 mois qu'il brise des promesses. Puis il n'est pas tout seul à briser des promesses. Et là, tout d'un coup, les gens se réveillent. Ils disent, il a brisé une promesse. Ben ouais, mais ça fait 15 ans que vous l'élisez, vous votez pour. Les gens ont voté pour. Il y a une élection dans 3 ans et demi. S'ils ne sont pas contents d'Éric Kerr, ils vont voter quelqu'un d'autre. That's it. Il n'y a pas de procédure de rappel comme aux États-Unis et en Colombie-Britannique ici. Un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est pas ça.
Ben, c'est Paul Saint-Pierre-Plamondon, on veut ça, là.
Oui, mais c'est une mauvaise idée. Ben, Pierre Saint-Paul.
C'est une idée de génie là, de PSPP.
Oui, puis il était où, lui, avec son parti en 2017 pour protéger le droit référendaire au Québec, la loi 122?
Nulle part.
Ah oui, puis là, par contre, là, sortir des députés quand ça ne fait pas leurs affaires, c'est bien important.
Ben, il reprend l'idée d'Éric Kerr de 2011.
Ah, l'opportuniste. Écoute, le monde est brillant. Les citoyens sont pas caves. Ouais, les gens voient au travers de ça comme si c'était du saradrap. C'est pire dans le cas du M parce que là, il fait un cirque des arcs, une tente à Saint-Pierre en avant des bureaux Éric Kerr. Il mouille, les gens sont dans le Kodak. Là, on fait des pétitions. Ça a l'air d'un... Écoute, ça n'a pas de l'air sérieux. Il n'y a pas de l'air d'un... Je te dis pas physiquement, là, mais ça démontre pas la carrure d'un chef d'État. Tu veux être chef d'État, là. Québec, c'est quand même pas une province de... Une petite province, là. On est une province d'un pays du G7. Donne-toi la carrure d'un chef d'État. Arrête d'aller japper pour tout pis rien. Comme tu dis, là, il y a une semaine et demie, c'était une drag queen. Là, c'est Ricard. Dans 2 semaines, ça va être quoi? Hey, les 3 années et demie vont être longues en tabarouette. Penses-tu vraiment que tu vas te faire élire avec ce genre d'attitude-là?
Là, il compte sur le maraudage. Est-ce que tu y crois? Des députés non. De la grande région de Québec qui pourraient changer de clan pour non, donner un accès à Éric Duhem à l'Assemblée nationale?
Non, présentement, là, les gens qui sont autour de la cellule là, du MCE, c'est-à-dire du ministère du Conseil exécutif, là, les gens qui sont autour du PM puis les gens qui sont dans l'ombre, mais qui conseillent l'exécutif, M. Legault, là, présentement, c'est faut tenir le fort. On passe une tempête, mais il peut pas toujours mouiller. À un moment donné, le soleil va revenir. Le gouvernement va avoir des bonnes nouvelles à annoncer parce qu'il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles dans la politique. Alors, exemple, je fais un aparté, on en parlera plus tard, mais si le gouvernement était brillant pour 2 semaines, il annoncerait le don d'organes présumé là, puis ça changerait pas mal, le focus sur le spotlight sur d'autres choses, puis les gens diront enfin de bonnes nouvelles. Bon, ceci étant dit, tu ne peux pas donner raison aux gens là, qui aboient dehors. Ce n'est pas les citoyens qui aboient présentement, c'est des chefs de parti. Si la population était réellement outrée, elle serait dans les rues.
Mm-hmm.
Elle serait devant l'Assemblée nationale, puis elle dirait, hey, là, il se passe telle affaire. Là, présentement, c'est des chefs de parti qui voient de l'opportunisme. Ils voient il y a du sang dans l'eau, fait que les requins sortent.
Alors. Il y a du sang dans l'eau.
Ah oui, il est faible. Ben, je te le dis souvent, hein, la faiblesse attire. Weakness is provocative.
Ouais.
C'est Rumsfeld qui disait ça, Donald Rumsfeld qui est décédé maintenant aux États-Unis. La faiblesse est provocatrice. Alors là, il y a un faible, il y a un maillon faible, on y va dessus. Let's go, on va mettre toutes nos énergies, on va tout mettre l'argent qu'on est capable de mettre.
Fait que Provençal va rester avec la coalition.
Le pire qui va arriver, là, c'est que s'il y en a qui démissionnent de la CAQ, ils vont aller comme indépendants. S'il y en a un de la gang qui décide de démissionner pour sauter à un autre parti, n'importe lequel, que ce soit le PCQ ou le PQ, je donne pas cher à sa peau. De toute façon, moi, je suis contre ça. C'est antidémocratique. Les gens ont voté pour un parti. Tu peux pas dire au bout de 6 mois, bon, ben, je vais en aller dans un autre parti. Ouais, mais c'est pas pour ce parti-là qu'on a voté. Sinon, à quoi ça donne de voter? On dit que là, on ne respecte pas les promesses, puis en plus, on peut changer d'allégeance comme ça nous tente. La loi devrait être au Québec, si tu démissionnes d'un parti, tu t'en vas comme indépendant jusqu'à la prochaine élection. Puis à la prochaine élection, là, tu choisiras le parti ce que tu veux, puis les gens décideront.
OK.
Dans le cas d'Éric Kerr, dans 3 ans et demi, les gens décideront s'ils l'ont assez vu. Puis si, je veux dire, c'est à lui à décider, là, je veux dire...
Tu voulais rentrer à l'Assemblée nationale, tout comme, voyons, Maître Bellemare qui voulait rentrer à l'Assemblée nationale pour changer les choses. Oui. Dans le cas de Maître Marc Bellemare, c'était pour le « no fault », abolir oui. Le « no fault ». Pour ce qui est de Sébastien Clavet qui voulait rentrer à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que tu voulais mettre en place, toi?
Le don d'organes présumé. Alors, pour les gens là, qui n'ont pas déjà entendu l'expression, ça veut dire que le don d'organes est automatique à votre décès. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de signer votre carte d'assurance maladie ou de le signifier à vos proches. automatiquement, à votre décès, s'il y a des organes et des tissus qui sont prélevables, les gens les prélèvent. Il y a déjà, écoute, je vois de mémoire, là, mais c'est au moins 18 pays en Europe qui sont comme ça. La Nouvelle-Écosse, le premier État en Amérique du Nord à le faire, le fait à partir de 2021. Donc, eux autres, là, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont le don d'organes présumés. Et puis, donc, ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs, puis ça marche bien ailleurs. Je ne dis pas que c'est parfait, que ça sauve tout le monde, mais ça sauve plus de monde que la situation actuelle qu'on a, qu'il faut, un, signer notre carte, deux, en parler à nos proches, parce que savais-tu que si tu signes ta carte, mais que tes proches ont de la peine si tu décèdes demain matin, puis que les médecins disent « on peut-tu prendre les organes », puis la famille et les proches disent « non », bien, c'est eux autres qui gagnent. C'est pas comme un testament quand tu signes ta carte. C'est pas respecté si la famille dit non. Il y a certains pays en Europe qui ont le don d'organes présumés qui respectent ça aussi. Alors, la formule change d'un pays à l'autre, mais grosso modo, tout le monde devient donneur automatique au décès. Il y a certains pays qui respectent le choix des familles, certains d'autres non. Moi, ce que je proposais, c'était justement que, un, le don d'organes présumés, tout le monde est donneur au décès.
Donc, on n'a plus besoin de signer une carte d'assurance maladie.
En fait, vous signifiez, si vous ne voulez pas, vous pouvez le signifier par téléphone, par Internet, par diverses manières. Vous pouvez toujours dire non, puis c'est respecté. La deuxième affaire que je proposais dans l'idée du don d'organes, c'était que, évidemment, on change la loi au niveau législatif pour que votre décision soit respectée. Pour pas que la famille dise hey, « là, j'ai de la peine, puis je veux pas ». Je veux dire, là, tout le monde devient donneur automatique, puis si tu décèdes, la famille ne peut pas dire non. Parce que ça donne quoi, là, d'avoir des dons automatiques si la famille peut dire non? Mm-hmm. On revient au point de départ, là, je veux dire, il faut avancer à un moment donné. C'était essentiellement ça. Moi, c'était ça. Et puis, sans tomber dans les grands, grands détails, de toute façon, je l'ai écrit là, sur mon site web pour les gens qui sont intéressés à lire l'histoire.
SébastienClavet.com.
Exact. Merci. Moi, quand je me suis présenté pour le PCQ, il y a un processus de sélection là, quand tu veux aller en politique. Alors, tu rencontres des gens qui sont publiquement connus, d'autres qui ne sont pas publiquement connus puis qui veulent rester dans l'ombre puis que je respecte ça. Mais la première personne que j'ai rencontrée, je lui ai mentionné. Moi, il faut que je sois capable de parler de ça. Il faut que je sois capable de parler du don d'organes, c'est mon cheval de bataille. Je comprends qu'il y a un programme électoral du PCQ puis que vous voulez parler d'X, Y, Z, mais moi, là, en plus du programme, je vais parler de ça. Hey, c'est une bonne idée, Sébastien. Oui, le Québec est rendu là, puis d'autres pays le font, blablabla. OK, passe à la deuxième étape du processus d'élection. Une deuxième personne, même affaire. C'est une bonne idée, oui, on va aller de l'avant avec ça. Blablabla. Troisième étape du processus d'élection, je rencontre le comté, l'association de comté du PCQ dans Jean Talon. Oui, c'est une bonne idée. Blablabla. Alors là, tout le monde est d'accord, parfait, good. Ma candidature est confirmée. Le jour où est-ce qu'on invite les médias pour dire, parce que lorsque le PCQ a annoncé ma candidature de façon médiatique, il a annoncé d'autres candidatures aussi la même journée. C'était juste un peu avant le début des élections, puis là, il restait peut-être une dizaine de candidatures à annoncer pour dire on a nos 125. Mais il y a juste moi qui prenais la parole, puis Éric Duhaime cette journée-là. Les autres candidats qui étaient annoncés, ils ne prenaient pas la parole. Alors, on me demande de composer un texte. Puis évidemment, tous les textes que tu composes, ils doivent être approuvés par le parti. Tu ne peux pas dire ce que tu veux n'importe comment. Alors, je compose mon texte, puis on me mentionne par message texto. N'oublie pas de mentionner le don d'organe. Alors, dans mon texte de présentation, de déclaration, de candidature officielle devant les médias, je parle du don d'organe. Je parle de 3 affaires. Le don d'organe, la loi 122, c'est-à-dire le fait qu'on a perdu le droit référendaire au Québec, que je trouve qui est une abomination. Puis évidemment, le 3e lien au Québec, autoroutier. Alors, c'est 3 affaires dans mon discours qui sont approuvées. La journée où on doit faire l'annonce, M. Duhaime arrive avec l'autobus de campagne, les médias sont là, les membres sont là. Et quelques minutes avant de commencer l'allocution, parce que M. Duhaime est occupé à jaser des gens, puis serrer des mains, puis etc., puis répondre à certaines questions des journalistes. Un peu avant le début, je demande à M. Duhaime, juste pour m'assurer, M. Duhaime, mon texte est approuvé par le parti, mais vous, ce que vous avez lu, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, mais je veux dire, est-ce que vous êtes OK, là, avec, tu sais, vous êtes au courant de ce qu'il y a dans mon discours? Ben, il me regarde les yeux là, comme... Moi, je dis pas ça pour l'insulter, mais comme un chevreuil, là, quand tu...
Il n'avait jamais entendu parler.
Il dit, là, dans l'organe présumé, je suppose que tu t'en vas avec ça. Il me dit ça de même.
Oui, je fiche. C'est à mon tour de faire le chevreuil.
Ben, il y a certains pays qui le font, pis, etc. Tu sais, je m'attends à ce que M. Duhaime sache que le don d'organe présumé, un, c'est quoi, puis que ça se fait ailleurs dans le monde. Ouais, il dit, je sais, là, il dit, je comprends, là, c'est quoi le don d'organe présumé, mais il dit, le parti s'est jamais prononcé là-dessus. Là, moi, j'ai figé raide. Le cœur m'a fait 3 tours. Puis là, moi, je voulais, tu sais, M. Duhaime, c'est pas mon grand chum. Là, je veux dire, je peux pas lui dire quoi. C'est pas moi qui va dire à M. Duhaime, OK, on fait ça, puis c'est moi qui décide.
Alors, je plie, je reste poli. Je dis, OK, je peux l'enlever de mon discours. Peut-être j'aurai la chance d'en parler dans la campagne, mais je vais l'enlever pour vous mettre dans, pas me mettre dans le trouble. Même chose sur la loi 122, vous êtes correct avec ça? Vous êtes correct avec ça, la loi 122, j'en parle un peu. Ben non, il dit ça non plus. Là. Il dit, je ne me rappelle pas de ça, cette loi-là. Ben là, j'explique un peu c'est quoi, comme je viens de vous dire, le référendum 2017, Martin Coiteux. Il répond pas, il me regarde les yeux, puis en voulant dire, je suis pas avec ça. Fait que j'ai enlevé ces deux affaires-là de mon discours, mais avant même de commencer la campagne électorale, moi, j'ai l'impression d'avoir déjà abandonné mes convictions. Je me présentais avec la condition que je puisse parler au minimum du ton d'organe présumé. Puis là, dans l'espace d'une minute, ça vient de s'écrouler. Plus tard dans la campagne, ils m'écrivent, ils me disent, hey, on va faire une conférence de presse justement devant les bureaux de Transplant Québec, puis on va y aller. Moi, je ne les ai jamais reparlé de ça, mais ils ont dû réfléchir entre eux autres et dire, ouais, c'est une bonne idée finalement. Longue histoire courte, ça ne se fera pas parce que le parti veut présenter une version du don d'organes qui est complètement à l'inverse de ce que les pays dans le monde font. Au final, ce que le PCQ veut faire, ça aurait donné moins d'organes au final, moins de donneurs potentiels. J'ai essayé d'expliquer ça, j'ai essayé de condenser 12 ans de lecture parce que moi, j'avais déposé une pétition là-dessus en 2010. Je ne suis pas un expert du don d'organes présumé, mais ça fait quand même un bout de temps que j'en lis des choses là-dessus. Alors, j'essaie de leur expliquer que leur idée, ça n'a aucun sens, que les autres pays dans le monde, c'est pas ça qu'ils font, anyway. Alors, on fait comme les autres. Quand les autres font quelque chose, ça marche bien. Pourquoi qu'on les copie pas, point?
Exact. Le truc, les Chinois! On peut faire ce que les Chinois ont fait pendant des années.
Et là, il y a un haut gradé du parti qui m'appelle, disant non, nous autres, c'est comme ça qu'on veut faire ça, parce que le don d'organes présumé que toi, tu présentes, là, c'est pas dans les valeurs du parti.
Eh hey boy.
Là, c'est là que là, tout s'est effondré dans ma tête. J'ai dit, comment ça, pas les valeurs? Ben, il faut que les gens aient le choix. Ben, les gens ont le choix de dire non. Avoir le choix dans la vie, c'est pas une de dire oui, c'est de dire non aussi.
Exact.
Alors, moi, j'ai été extraordinairement déçu de ça. Aujourd'hui, quand je vois M. Duhem, à tous les jours que je le vois à TV ou dans les médias, je pense à ça. Là, aujourd'hui, il défend des grands principes démocratiques, puis le respect, puis l'intégrité, puis ainsi de suite. Mais savais-tu que moi, là, la conférence de presse qui était originellement prévue pour parler du don d'organes devant les bureaux de Transplant Québec, elle a été annulée parce que je ne voulais pas aller de l'avant avec une idée que le PCQ voulait, qu'il y aurait eu moins de donneurs au final. Sais-tu quoi ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont fait une conférence de presse pour augmenter la vitesse sur le 20 à 120 km/h. Fait que pour le PCQ, là, aller plus vite est plus important que le don d'organes. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. C'est ça qui est arrivé.
C'est dit. On passe au prochain sujet, cher ami. Puis je veux juste te féliciter pour être en ligne droite avec tes valeurs fondamentales.
Ben moi, je te remercie d'en parler parce que le don d'organes, c'est pas juste dans la semaine du don d'organes que tu en parles. Tu en parles souvent, régulièrement. Puis c'est comme les gens qui mangent pas à Noël. C'est pas rien qu'à Noël qui mange pas. Il faut en parler régulièrement. Fait que moi, je te remercie d'en parler souvent aussi.
Exact. Puis c'est pas fini. T'sais. On a une idée, nous, qui a germé là, depuis un certain temps. J'en ai parlé à des gens qui peuvent nous aider dans ce dossier-là. Ça a l'air encore à travailler un peu, mais tu sais quoi? Un jour, je vais me dire que je vais y aller, je vais t'appeler toi, puis on va monter.
On va brasser.
Exactement. Parce que si les gens ne veulent pas embarquer là-dedans, c'est toujours bien de leurs affaires, mais moi, ça ne veut pas dire que je ne veux pas embarquer. Fait que, à un moment donné, il va falloir que je passe de la parole aux actes, moi aussi. Hey, il reste quelques minutes pour parler des dossiers aux États-Unis d'Amérique, Sébastien Clavet, c'est un fan de ce qui se passe dans la politique américaine.
Absolument.
SébastienClavet.com, qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden?
Alors, aujourd'hui, on a appris que M. Biden, finalement, allait se représenter pour les prochaines élections de 2024. Et puis, aujourd'hui, il a 80 ans, M. Biden. Fait que donc, quand il va se représenter en 2024, il va avoir 82. Puis s'il est réélu puis il fait son mandat au complet, ça veut dire qu'il va finir à 86.
Donc, il va mourir pendant sa présidence.
Mais ben non, il souhaite de vivre jusqu'à 100 ans, mais là, la job de président des États-Unis, c'est la job la plus difficile au monde.
Okay. Tu sais, je ne veux pas faire d'âgisme là, parce qu'il y a des gens de 85 ans qui sont top shape.
Ben, Warren Buffett.
Qui, au niveau génétique... Mental, au niveau physique, sont encore toutes là à 85 ans. Mais malheureusement, ça ne semble pas être le cas de Joe Biden. On le regarde, c'est un président qui est affaibli, des difficultés à marcher, des difficultés à réfléchir.
D'élocution.
Des difficultés d'élocution, des difficultés à retenir des textes, des difficultés de lecture.
On le voit qu'au niveau cognitif, là, il y a des certains manques. Là.
On parle de l'homme le plus puissant du monde libre.
Ouais,
c'est pas un gars qui est en position de force. Tu sais, tu me disais tout à l'heure, j'ai trouvé l'image pas pire, tu sais. Quand il y a quelqu'un qui saigne dans l'océan, les requins arrivent, ben c'est le cas de Joe Biden. Là,
ben, on le voit parce que présentement, là, dans le monde, il se passe un peu. On n'a pas le temps d'en parler. Mais peut-être une prochaine fois, au niveau géopolitique dans le monde, il y a des bras.
c'est incroyable ce qui se passe. Les gens vont de plus en plus entendre parler de l'expression BRICS, B-A-R-I-C-S, qui est un acronyme qui veut dire Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais au départ, c'était quelques pays. Mais maintenant, là, aujourd'hui, ben, en fait, cette semaine, on apprenait qu'il y a 19 pays de plus qui veulent embarquer dans cette organisation-là. Bref, BRICS, ça, c'est un peu comme le G7, mais ceux qui ne sont pas dans le G7.
Okay.
Alors, ceux qu'on n'a pas amenés dans notre club, ils ont décidé de se faire un club. Mais là, ce club-là, il devient plus fort que notre club. Parce qu'au niveau du PIB, là, les membres actuels du BRICS ont un PIB combiné plus fort que le PIB combiné du G7. Alors, au niveau économique, dans le monde, là, ils sont rendus importants, mais on n'en parle jamais ici de ça, ou très, très, très peu. Ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, ils sont capables de prendre des décisions qui vont affecter notre pouvoir d'achat. Puis ça, c'est déjà commencé, d'ailleurs. Alors, si tu as M. Biden qui n'est pas capable de tenir tête, ou du moins être compétitif devant des organismes comme ça ou des changements géopolitiques comme ça, bien, c'est sûr que notre pouvoir d'achat va tout simplement se réduire davantage. Okay. Le seul espoir que j'ai, moi, c'est pas parce que j'aime pas M. Biden, mais je vais aller dans les deux côtés là, de l'analyse. Il y a un sondage qui est sorti, je pense, hier ou avant-hier, qui disait que 70% des Américains qui veulent pas voir Joe Biden. Puis ça comprend aussi les démocrates. Il y a 70% des gens qui veulent pas voir M. Biden se représenter. Puis c'est 60% pour M. Trump. Alors, on se rend compte que les gens veulent du changement. Ils ne veulent pas revoir un autre match Trump-Biden.
Est-ce que les démocrates peuvent présenter quelqu'un d'autre?
Ben oui. La loi le permet. Puis il y en a déjà qui ont annoncé d'ailleurs, mais là, c'est des noms plus ou moins connus, des gens qui sont là juste pour comme se faire un nom. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Puis au niveau de républicains aussi, il y a du monde qui s'annonce. Il y a M. DeSantis qui ne l'a pas encore annoncé, mais il y en a d'autres. Il y a Larry Elder en Californie qui s'est annoncé au niveau républicain. C'est lui qui s'était présenté là, contre Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, au niveau là, du rappel justement qui a échoué là, il y a un an et demi de ça environ. Larry Elder, qui est un monsieur très, très brillant, mais qui n'a aucune chance de devenir président républicain des États-Unis non plus. Alors, la loi le permet, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, il y a une majorité nette d'Américains qui ne désirent pas revoir un match Trump-Biden. Pas parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils sont... Je pense que les Américains commencent à être fatigués là, de la dissension. Okay. Le fossé américain au niveau social est énorme, puis on sent que les gens sont prêts là, à peut-être se réconcilier un petit peu. Là. Je ne dis pas beaucoup, mais... Juste de ne pas revoir un autre match Biden-Trump, c'est déjà un pas en avant.
Il reste 2-3 minutes. Tucker Carlson, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il quitte?
Ça, c'est incroyable. Les gens qui ne connaissent pas Tucker Carlson aux États-Unis, là, c'est un animateur de télé à Fox News qui n'est pas nécessairement un journaliste, mais qui avait une façon de penser singulière, ouais. Une façon d'analyser qui était unique.
On peut-tu dire de droite conservatrice?
Oui, lui, il ne se réclame pas ni républicain ni libertarien, mais tu sais, il ne veut pas avoir d'étiquette.
Okay.
Alors, à ce niveau-là, il est plus libertarien, mais tu sais, c'est un électron libre, un penseur libre. C'est lui qui était le numéro un, l'émission numéro un au câble aux États-Unis avec 3,5 millions à chaque soir que les gens l'écoutaient. Il a une influence énorme, c'est un gars très brillant. Et puis là, ben, Fox News a décidé de s'en débarrasser hier. C'était une bombe atomique dans les médias parce que...
Mais 3,5 millions, c'est pas beaucoup.
Non, ça ne l'a pas beaucoup, hein, mais c'est parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont le câble aux États-Unis.
Ils sont 330 millions aux États-Unis.
Ouais, 330. Mais c'est qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont le câble, parce que okay. Fox News, c'est juste le câble. Alors, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'était le numéro un pareil.
Okay.
Mais lui, là, je ne sais pas si tu te rappelles de Rush Limbaugh, l'animateur de radio aux États-Unis. Bon, ben, en Floride, il est décédé maintenant, Rush Limbaugh, mais... C'est comme le successeur spirituel de Rush Limbaugh, dans le sens que c'est un analyste. Il y a vraiment une façon de penser qui était très différente des autres. Et on peut penser que c'est une des raisons pourquoi ils l'ont éliminé. Parce que tu ne te débarrasses pas de ton number one pour aucune raison. On a vu l'action de Fox Corporation qui a baissé de 5% hier. En fait, là, la baisse de capitalisation boursière de Fox News a baissé plus... que ce que ça les a coûté la poursuite de Dominion la semaine passée de 787 millions. Ils sont quasiment dans une baisse d'un milliard. Bon, ça va peut-être remonter un peu dans les prochaines semaines. Mais tout ça pour te dire que le gars qui était le plus libre à la télévision au niveau des analyses et de présenter des choses d'une façon totalement différente, ils ont réussi à l'éliminer. Évidemment, il ne disparaîtra pas de la carte, là. Il va réapparaître, il va peut-être prendre des vacances, c'est un gars qui aime la pêche, puis etc. Il va peut-être prendre une couple de semaines de break.
Mais là, il est encore plus libre, là, donc il va revenir plus fort. Là.
Moi, là, c'est souvent l'image que je donne, c'est celle d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Là. Si tu tues quelqu'un de fort, il va revenir encore plus fort. Et là, écoute, on pense à Joe Rogan qui a son podcast à Spotify. Lui, là, l'entente qu'il y a avec Spotify, c'est 100 millions. Tucker il est plus connu, il a plus d'influence que Joe Rogan. Fait que lui, là, il n'y a pas de problème de savoir comment il va payer ses factures à la fin du mois. Il va revenir, mais c'est quand même une bombe dans le monde des médias. Et puis, en plus, ça se fait une journée avant que M. Biden annonce sa candidature. Alors, les conspirationnistes lèvent les bras. Mais... Alors, ça brasse énormément aux États-Unis de ce côté-là.
Pour suivre Sébastien Clavet, on va sur ton site internet, sebastclavet.com.
Exactement, je te remercie beaucoup.
On peut aller sur ton Facebook aussi.
Bien, quand tu vas sur sebastclavet.com, tu as tous les liens, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, tout est là. Alors, vous pouvez me suivre là, de la manière dont vous voulez.
Tu as un Instagram?
Ben oui,
on te voit-tu avec un genre de speedo?
Non. Ben, c'est plus un bookstagram. Alors, j'ai bookstagram. Des livres que j'aime, que je recommande.
Sébastien Clavet, merci.
Merci.
Salut.
Marceau, le soir. Boulevard. Vous connaissez sûrement l'expression « ce qui se passe à Boulevard se ramasse à Vegas ». Est-ce vraiment ça, l'expression? Ah, c'est pas grave. Boulevard 102.1 et Enviro-Confort vous envoie « When we were young festival » Votre chance ultime de voir vos bands punk préférés de votre enfance. Blink 182, Green Day, The Offspring, Sum 41, MXPX, Rise Against et un paquet d'autres bands punk. À tout moment, l'équipe de Boulevard pourrait être sur la route pour vous distribuer un autocollant à mettre sur votre voiture pour devenir finaliste. Fait écoutez-nous pour savoir où et quand sera la prochaine distribution. Et le 19 mai, vous saurez qui d'entre vous changera d'air en s'évadant à Vegas au When We Were Young Festival grâce à Boulevard 102.1 et Enviro-Confort. Vos experts en climatisation, chauffage et thermopompe.
Malheureusement, tout n'est pas fait pour durer. Comme les parapluies, les meubles de jardin en osier ou ma relation avec Suzy. Ah, Suzy. Chez Toyota, nous fabriquons des véhicules fiables sur lesquels vous pouvez compter. Et nous avons obtenu le prix du Canadian Black Book pour la meilleure valeur retenue de l'industrie. C'est l'heure de vous aider à en faire plus avec votre argent. C'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Les nouveaux jeudis explosifs du Complexe du Phoenix. Ça part fort dès 17h avec bar et nachos gratuits. Assiette de tartare à $19.95 et 2 pour 1 sur les verres sélectionnés. Aussi, chansonnier, DJ et dégustation de vodka pas cher. Tous les jeudis au Complexe du Phoenix.
Chaque soir, mon stress s'envole comme par magie avec les bulles de mon spa de rêve. Trouvé chez Concept Piscine Design. Pas le confort avec chute d'eau, éclairage d'ambiance et plus pour seulement $7,299. Fini le stress. Merci Concept Piscine Design. Et merci aussi pour les rabais de 15% et plus sur la nouvelle collection de meubles de jardin.
Découvrez tous nos produits en magasin ou en ligne. ConceptPiscineDesign.com. Installateur de bonheur depuis plus de 30 ans.
Les petits moteurs Sainte-Croix, votre concessionnaire Cobb Cadet, vous invite à ses portes ouvertes. Le 28 avril, obtenez jusqu'à 10% de rabais ainsi que des cadeaux à l'achat d'une tondeuse ou un tracteur Cobb Cadet neuf. Profitez-en le 28 avril chez les petits moteurs Sainte-Croix, votre concessionnaire Cobb Cadet.
Fait partie d'une équipe soudée. Soudure JM Chantal, fabricant de conteneurs environnementaux et remorques, est à la recherche de caristes et de soudeurs. Horaire sur 4 jours et demi et régime d'assurance complet. Ça te parle? Postule chez JM Chantal ou via lecarrière.fm.
Le Bistrot L'Atelier, c'est la place pour bien boire et bien manger. Des grillades, des tartares savoureux et la meilleure carte de cocktail en ville. Vous voulez relaxer après une grosse journée? L'Atelier. Vous avez quelque chose à célébrer? L'Atelier. C'est pas compliqué. Pour chaque occasion, pensez Atelier sur Grande Allée.
C'est le moment de sortir et d'explorer. Optez pour le tout nouveau Kia Sportage 2023. Un véhicule qui vous ressemble. Conduire est encore plus facile que jamais avec l'application Kia Connect et l'assistance intelligente de stationnement télécommandée. Vous pouvez également choisir votre mode de conduite avec les modèles essence, turbo-hybride et hybride rechargeable. Le meilleur moment pour conduire le tout nouveau Sportage 2023, c'est maintenant. Achetez le vôtre chez votre concessionnaire Kia. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Boulevard 102.2, la radio rock de Québec.
Boulevard.
Le rock, ça nous coule dans les veines. Et on partage cette passion-là avec vous. Mettez ça sur le poste, assoyez-vous confortablement et profitez du meilleur rock à Québec. Boulevard 102.1, c'est plus que du rock. Marceau, le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour nous ce soir en ce qui a trait à l'émission de Marceau le soir. Ça a été un plaisir. Puis les auditeurs qui m'écrivent à l'instant pour me dire « Ah, c'est quoi déjà le site internet de Sébastien? » Eh bien, c'est sebastclavet.com pour le suivre sur les réseaux sociaux. Un gars super sympathique. C'est mon chroniqueur politique. C'est un ancien candidat du Parti conservateur du Québec qui, aujourd'hui, est avec moi une fois de temps en temps. Puis c'est toujours un plaisir de le recevoir. Hey, dans les prochaines heures, ce qui nous attend, ben, c'est peut-être un peu de pluie pour ce qui est de ce soir et cette nuit ainsi que demain matin. C'est ce que Environnement Canada nous mentionne, un minimum de plus 5 pour ce soir. Demain, mercredi, ce sera nuageux le matin, 40 % de probabilité d'averse avec un maximum de 13, un ciel dégagé par la suite en après-midi pour ce qui est de demain. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 13. Vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 16. Puis pour ce qui est du week-end, oh là, ça commence à changer. Vous voyez, hier, je vous parlais d'un week-end très ensoleillé. Bien là, pour ce qui est du week-end, samedi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse en journée, maximum de 14. Et dimanche, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Comme ça a changé hier, ça a le temps de changer demain. Fait qu'on se reparle demain sans faute pour ce qui est de la météo. Mais sinon, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée sur les ondes de boulevard et on se rejase demain 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Salut, bye bye.
Marceau le soir. Le soir.
Depuis 10 ans, les gens de Québec participent à la plus grosse collecte de jouets en ville. Le conteneur de l'amour où 215 000 jouets ont été récoltés pour la Fondation Renault Jouets. Et on poursuit cette belle collaboration toujours en grand. Le 7 juin prochain, aidez-nous à remplir le Théâtre Capitole en assistant au spectacle bénéfice Le Don de faire rire, présenté par Renaissance. Alexandre Barrette et André-Philippe Gagnon vous feront rire à coup sûr. Achetez vos billets sur théâtrecapitole.com. La Fondation Renault Jouets. Permettez à un maximum d'enfants de sourire à leur tour.
Les camions RAM sont arrivés chez Capital Chrysler. Le fameux pick-up RAM à partir de seulement $49,995. Disponible pour livraison immédiate. Taux de financement à partir de 1,99%. CapitalChrysler.com. Rue Marais, ouvert le samedi.
Si pour toi, chaque petit projet est une grande réalisation. Et voilà, j'ai terminé l'escalier.
Ah, je pensais que tu faisais juste la rampe.
Oh, la rampe. J'y retourne.
T'es minutieux, habile et tu souhaites travailler sur des projets d'envergure, Can-Am est à la recherche de soudeurs pour son usine de Québec spécialisée dans la conception et la fabrication de composants métalliques pour l'industrie de la construction. Pour plus de détails, visite lecarrière.fm. Can-Am, un alliage solide entre savoir-faire et fierté.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois, cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez 25 % de rabais sur différents produits et services de la Cité agricole, dont les boîtes festives. Ou encore un chèque cadeau à 50 % de rabais donnant accès au bain à partir de 18 h au Strom Spa.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Boulevard 102.1, la radio de toutes. Tout le monde, tout le temps.
Tu es débrouillard, ouvert d'esprit et fais preuve d'initiative? Hébergement Rive-Nord te veut dans son équipe. Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Notre équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance et plus. Salaire compétitif à partir de $22.25, horaires flexibles, assurance collective et soins dentaires. Chez Hébergement Rive-Nord, on prend soin des autres et des nôtres. Envoie ton CV à heb-r-nord à hotmail.com.
Pièces d'auto économique, c'est toujours jusqu'à 35 % moins cher qu'ailleurs. Nouvellement distributeur des produits Silver Max, nous offrons un rabais exceptionnel de 15 % jusqu'à la fin avril. De plus, obtenez un produit d'entretien et de livraison gratuite sur toute commande de $150 et plus. Visitez lepièceéconomique.com.
Salut Pierre, prêt pour le match?
Wow! C'est quoi ça?
Ça, Marc, c'est ma barbe des séries.
Mais t'es pas un joueur?
Non, mais je suis un conducteur. C'est l'événement Hyundai en série. De nouveaux véhicules arrivent chaque jour. Des recrues de choix avec plein d'équipements de sécurité, de connectivité, de confort et une garantie limitée de 5 ans. Tu devrais en profiter.
D'accord, mais tu vas faire une petite chose pour moi avant.
Ben bien sûr, quoi donc? Oh, ma parole, non, non, pas le rasoir!
Commandez votre nouvelle Hyundai dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle.
6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio? Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Ben oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit.
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10 % de ta paye? Drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit.
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant j'écoute Boulevard 102.1. Merci Jean-Steve.
Boulevard 102.1.
Devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now.
see your eyes. Still a siren in a hotel room and the light in your eyes. The waves on the ceiling. I'll be your bright side, baby, tonight. I'll be your bright side, baby, tonight. Tonight. You were tired of Tacoma. I was tired of believing we were right. Losing every other friend. Finding nothing in the afterlife but the light in your eyes.